C'est l'état d'urgence.
Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire.
Il y a quand même beaucoup d'interdictions de manifestations, hein.
L'état d'urgence signifie l'abandon de l'état de droit. Nous combattons la démocratie avec les armes de la République.
La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Nous devons avoir la ville à notre disposition, la passer au crible et interroger tous ses habitants.
C'est l'état d'urgence.
Et ça dure, 67 jours que dure l'état d'urgence, et ça ne semble pas prêt de s'arrêter, même si on s'agite sur la déchéance de nationalité, mesure que tout le monde s'accorde pour dire qu'elle ne servira à rien, qu'elle ne sera peut-être pas appliquée, mesure horrible il est vrai, mais qui masque le fait qu'on va intégrer à la Constitution, à la loi générale, des mesures d'exception, encore et encore et encore des mesures d'exception, après de nombreuses lois sécuritaires, sous prétexte de terrorisme ou de lutte contre le trafic de drogue, qui ont permis de plus en plus aux Pandores de venir s'immiscer dans les vies privées, arrêter des gens et faire exploser le nombre de prisonniers et de prisonnières. Voilà où on en est aujourd'hui, c'est le front du lundi, vous êtes sur Canal Sud 92.2. Aujourd'hui le front du lundi laisse la place d'abord à la première demi-heure où on va parler état d'urgence avec l'observatoire de l'état d'urgence. On a enregistré ça vendredi dernier à la CREA, au CSA, à les Jean Jaurès, où il y avait une belle fête. Si vous l'avez raté, c'est tant pis pour vous, mais il y en aura d'autres tous les vendredis, c'est les vendredis de la solidarité. Et on vous repassera des bouts, on a fait un plateau là-bas en direct avec Clément et Nico du Front du Lundi, et Clément de Lui est approuvé sur Canal Sud le mercredi soir. Et on a enregistré pas mal de gens, dont l'Observatoire de l'état d'urgence, c'est Mathieu qui vient nous en parler, on va écouter ça, entrecoupé d'un jeu magnifique qui s'appelle Attention, gros danger sur l'état d'urgence, un son qu'on a reçu. Voilà, et puis après, en dernière partie, ça sera Lilith, Martine et les autres qui vont nous parler marche pour la dignité et marche pour l'égalité, donc 1983-2015, toute une histoire racontée. Donc voilà, le front du lundi laisse la place à Radio Rageuse, à Lilith, Martine et les autres. Bonne écoute.
Il y a un petit moment là, ils ont décrété l'état d'urgence. Comment est-ce que tu te retrouves à poser cette affaire d'observatoire? Comment ça s'est passé?
Alors moi, en fait, j'ai pas posé grand chose tout seul de mes 10 doigts. Il y avait du monde qui était déjà constitué. Donc il y a un collectif qui s'appelle le QAP, le collectif pour une union antiraciste et populaire, qui existait à Toulouse depuis à peu près un an. Je peux pas dire grand chose de l'histoire de ce collectif, mais qui, suite à la vague de déferlement raciste qui a eu lieu suite aux attentats de novembre et à l'état d'urgence, s'est dit faut qu'on se rencontre, faut qu'on fasse quelque chose. Et de cette réunion à laquelle ils ont appelé est née l'idée de faire un observatoire de l'état d'urgence, donc d'aller chercher, de porter un regard sur ce que faisait l'État à ce moment-là. Moi, à titre personnel, ça a été un truc... Moi, l'état d'urgence, je l'ai vraiment reçu comme un truc écrasant, un retour en arrière. Et donc, on avait besoin... Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé cette manière de lutter contre cet état d'urgence qui consiste en fait, pour l'instant, surtout à aller chercher les témoignages de gens qui sont premièrement concernés, ciblés par l'état d'urgence. Des personnes musulmanes, ciblées parce que musulmanes, qu'on considère comme radicalisées. Alors, sachant que ce que l'État a défini comme radicalisé aujourd'hui, c'est une pure construction. Si vous mettez à porter la barbe, à plus parler aux gens à qui vous parliez avant, il y a tout un tas de critères même qu'ils ont mis dans une grille d'analyse des gens radicalisés. Donc c'est ces gens-là qui en fait sont musulmans simplement. Il y a des tas de gens qui. Des témoignages de cas de gens qui sont ciblés pour cette simple raison, c'est les musulmans du village, quoi. Et donc qui se font défoncer leurs portes, passer à tabac éventuellement. par les policiers qui viennent faire la perquisition. Et puis il y a eu, alors j'ai un peu perdu le nombre, mais je crois qu'il y a quelques centaines d'assignations à résidence.
340, un truc comme
voilà,
ça.
Voilà, et donc effectivement, il y avait tous les militants autour de la COP21, on va dire, qui étaient assignés à résidence, mais finalement, c'était assez peu par rapport aux 250 personnes assignées à résidence sur la base de rien d'autre que d'être des musulmans dans le viseur des services.
Ouais, on parlait de 12 ou 14 personnes qui étaient...
Ouais, peut-être 25 militants.
Ouais, 25, ouais, pardon.
Quelque chose comme ça, ouais, je pense.
Et voilà, donc... Mais en plus, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que même aujourd'hui, on ne sent plus l'état d'urgence. Quoi, je veux dire, au début, tout le monde a dit « ouais, on ne va pas pouvoir manifester », etc. Et je pense que le pire en fait, qui peut arriver, c'est qu'on puisse continuer à manifester, qu'on puisse continuer à vivre un peu comme on vit, surtout quand on n'est pas justement musulman, quand on n'est pas la cible principale de cette affaire-là. Et c'est ce qui se passe en fait. Il y a, même s'il y a eu des durcissements, on a vu ces gens pour la COP21, etc. Et puis des interdictions de manifs, mais qui, on avait bien vu suite à la mort de Rémi Fraisse qu'ils n'hésitaient pas à interdire les manifs et à lâcher les chiens sur les gens, même hors d'état d'urgence. Et on est à 3000 portes défoncées, hein, 3000 perquisitions, plus de 300 personnes assignées à résidence et peut-être, alors arrête-moi si je me trompe, 4 procédures pour terrorisme.
Ouais, moi j'avais entendu 2 en fait. Et, ouais. Et encore, c'était pas très clair. Il disait, sur ces 3000 perquisitions, il y en a 2 qui nous ont donné des éléments pour des enquêtes sur du terrorisme. Bon, je sais pas exactement ce que ça recouvre en plus, sachant que la définition du terrorisme est pour le moins foireuse et peut recouvrir des choses assez diverses. Bon. C'est clair que il y a eu 2 phases de l'état d'urgence, quoi. Il y a eu vraiment le début. Où ils ont profité, il y a eu une forte répression des milieux militants et des cas de violence très nombreux vis-à-vis des musulmans. Et puis après, passé le 12 décembre, qui était la fin de la mobilisation et de la COP, la COP 21 à Paris, et ben on a oublié, comme tu dis, un peu ceux qui étaient toujours assignés à résidence. Parce que, par exemple, on a récolté, pour l'instant, on n'a publié que 2 témoignages, mais on a rencontré plus de gens. Donc il y a d'autres témoignages qui vont sortir. Donc on les publie sur le site toulouse.etatdurgence.fr. Et le premier témoignage, c'est une personne qui a assigné à résidence, et sur le papier qu'elle a pour son assignation à résidence, c'est marqué « Vous êtes assigné à résidence et vous devez pointer pendant la durée de l'état d'urgence ». Alors autant dire que, quand on l'a rencontré, nous, on était en train de suivre... le fait que le gouvernement voulait encore repousser de 3 mois à partir de février l'état d'urgence. Aujourd'hui, je ne sais pas trop où ils en sont, mais il n'y a pas de. Dans son cas, ce n'était pas jusqu'au 12 décembre comme les militants. Il n'y a même pas de justification. C'est, on considère que vous êtes dangereux, vous êtes assigné à résidence.
Attention, Gros Danger est un jeu conçu pour préparer vos enfants et vous-même à affronter les risques de la réalité du monde réel et vous apprendre à bien réagir en situation d'urgence. Ce jeu éducatif vous permettra de tester votre vigilance et d'apprendre les réactions à avoir dans des situations de danger extrême afin d'augmenter votre sécurité au quotidien de tous les jours. Attention Gros Danger a été élaboré par des experts en sécurité
et en pédagogie.
Attention Gros Danger est un jeu interactif auquel vous pourrez jouer en famille sans sortir de chez vous. Participez dès maintenant à l'effort républicain pour la sécurité nationale en trouvant les bonnes réponses aux questions suivantes. Attention, ça commence!
Jeu agréé par le ministère de l'Intérieur.
Attention, Gros Danger. Question 1. Un ami vous propose de l'accompagner à une manifestation alors que l'état d'urgence les interdit. Que faire ?
Réponse A. Vous acceptez après vous être renseigné sur les risques et les enjeux tout en prenant vos précautions. Lunettes de ski, écharpe et sérum physiologique. Réponse B. Vous essayez de le convaincre de ne pas y aller, mais plutôt de signer la pétition en ligne. Réponse C. Vous refusez cordialement pour ne pas éveiller ses soupçons et vous le dénoncez au plus vite aux autorités.
La bonne réponse est la réponse C. Les perturbateurs de l'ordre public doivent être maîtrisés au plus vite. En cette période à haut risque sécuritaire que nous traversons, participer à une manifestation est un acte terroriste grave.
Alors sur ces histoires de pointage, on en a déjà parlé, il y a eu plusieurs cas pour des raisons diverses et comme tu le dis, totalement arbitraires. On a eu, au moins à ma connaissance, au moins un cas de quelqu'un qui a refusé ce pointage quotidien, voire polyquotidien. C'était vers Chambéry si je ne m'abuse. Et histoire de bien montrer que la justice n'est pas, pas là pour freiner a posteriori l'action policière, la justice a complètement validé la mesure administrative et le jeune homme a été condamné. Donc c'est quelqu'un qui était en formation, il avait fait 2 ans de formation, il était en période de stage et donc il disait sinon je vais flinguer mes 2 ans de formation. Il a été condamné à 5 mois de prison ferme. Hein, pour mémoire, aujourd'hui le réquisitoire contre le policier qui a assassiné Amine Bentoussi il y a 3 ans, c'est 5 ans de prison avec sursis quoi.
Mmh. Ouais, tout à fait. Ouais. Je crois aussi qu'il y a eu un cas à Toulouse d'une personne assignée à résidence qu'on n'a pas encore réussi à rencontrer, mais qui a loupé un pointage parce qu'il était allé faire constater ses blessures lors de la perquisition à l'hôpital. Et ils sont revenus chez lui, perquisitionnés, pareil, plaqués au sol, violentés. Alors du coup, il n'a pas pris de peine, mais il y a quelque chose de complètement... ils utilisent en plus quelque chose de kafkaïen, ça s'auto-entretient, quoi. T'essaies de lutter contre ton assignation à résidence, et ça renforce encore plus l'oppression matérielle de cette assignation, quoi.
Et est-ce que les gens ils témoignent facilement ou comment ça se passe hein?
Eh ben, ça dépend, pas tout le monde. Pour l'instant, les gens qu'on a réussi à rencontrer, y en a, ils étaient très méfiants parce que il y en a qui ont eu tendance à s'enfermer un peu parce qu'ils sont, à juste titre, sentis stigmatisés par ces perquisitions. Le fait qu'ils aient été ciblés, parce que c'était juste après les attentats, l'appareil médiatique, politique, cherchait à débusquer le terroriste qui se planquait parmi nous. Et forcément, quand une armée de Robocop, de ninja viennent défoncer une porte, on se dit tout de suite que les voisins de ces gens-là sont vite dit que ça y est, ils vivaient à côté d'un terroriste. De quelqu'un qui était susceptible de poser des bombes, de massacrer des gens. Et donc, clairement, y a des gens, ils sont un peu... à titre personnel, c'est des trucs qui sont lourds, des choses qui sont lourdes à gérer. Ils se sentent... Il y en a beaucoup qui se replient. Maintenant, ceux dont on a pu recueillir le témoignage, ça leur a fait du bien aussi de pouvoir en parler. De pouvoir donner assez librement leur version des faits. Moi je suis ça, je suis quelqu'un d'absolument. J'ai rien à me reprocher, vous n'avez rien à craindre de moi. Et dans un cas notamment, ça a été chouette parce que y a quelqu'un, donc le deuxième témoignage qu'on a publié, peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un homme qui vit au Mirail, qui élève ses 3 enfants tout seul et qui était assez isolé, qui fréquentait pas grand monde dans le quartier. Et qui s'est retrouvé, suite au fait qu'il ait réussi à témoigner, etc., des gens sont venus le voir dans le quartier, lui témoigner du soutien, de la sympathie.
C'est l'histoire du photographe masqué.
Voilà, tout à fait.
On peut rappeler parce que ça donnait lieu à un article publié sur le site Yata. Hein, donc, histoire récente, il y a une histoire de 129.
Voilà, 129. C'est parce qu'ils.
C'est le numéro de l'article.
C'est les flics qui sont rentrés chez lui, qui l'ont plaqué au sol. Ils sont mis à défiler dans l'appart, c'est-à-dire qu'ils étaient dans les étages, dans les escaliers en dessous et au-dessus, et ils passaient un par un dans l'appart et ils lui donnaient des coups. Et il y a un policier qui s'est acharné sur lui en lui donnant des coups de pied, en criant 129, 129, 129 du nombre des victimes des attentats de novembre. Quoi.
Donc voilà, donc c'est l'histoire en l'intégralité. Il y a 2-3 autres détails aussi ahurissants dans cette histoire-là, qui est assez symptomatique, que ce soit par l'utilisation de la photographie qui a été faite, la mise en scène et la diffusion de ces affiches, les propos des policiers, ou même la personnalité du gars qui s'était fait embarquer. Alors c'est chouette, là tu racontes du coup ce qui s'est passé après, une solidarité des voisins, c'est bien la preuve que ça vaut la peine.
Et ce que tu disais sur le fait que photographe de la Dépêche était masqué avec cet homme qui raconte qu'il a cru que c'était un policier qui descendait de la voiture de la Dépêche, quoi, ouais. Parce qu'il était habillé comme eux, comme les flics, et on voit cette espèce de collusion où on se sent complètement, il y a la presse, c'est-à-dire que même ce qui peut paraître à des moments, c'est la police et la presse qui peut paraître à des moments comme des recours aussi, hein, pour dénoncer des choses, fait bloc, quoi. Donc j'imagine que ça a dû être un coup assez dur, quoi.
Ouais, et cette personne-là, donc on a appelé Hassan dans l'article. Dans le témoignage, depuis, il collecte, il recense un peu les endroits sur Internet où il a trouvé sa photo, mais il l'a aussi trouvé à la télévision, en fond de scène, en ouverture de certains journaux télévisés. Et il hallucine, quoi. Il voit qu'en Chine, aux États-Unis, dans un même sujet à la télé ou sur un site Internet, on parle des attentats, on montre les corps des victimes du Bataclan, et après on montre sa photo de lui menotté dans le dos. C'est quelqu'un qui est assez costaud, qui a une grosse barbe. Et clairement, voilà, il y a eu la construction d'image d'un monstre.
Question 2. Les événements ont engendré énormément d'informations et de reportages sur le terrorisme, si bien que vous vous sentez maintenant angoissé en permanence. Que faire ?
Réponse A. Vous allez chez votre généraliste pour vous faire prescrire des anxiolytiques et sortez de chez vous le moins possible pour minimiser les risques. Réponse B. Vous vous inscrivez dans un club de tir pour vous préparer au pire et vous êtes maintenant fermement décidé à voter pour le parti qui saura prendre des mesures à la hauteur de la situation. Réponse C. Vous éteignez la télévision et préférez trouver du réconfort auprès de vos proches et de vos amis.
Cette question a deux réponses possibles. Si vous êtes un homme, il fallait répondre la B. Travailler à la défense de sa famille et de sa patrie contribue à éradiquer le terrorisme à la racine. Si vous êtes une femme, il fallait répondre la A. Le ministère de la Santé recommande fortement aux personnes vulnérables comme les femmes, les enfants et les personnes âgées d'éviter toute prise de risque inutile, comme par exemple sortir de chez soi. Question 3. Vous avez un rendez-vous important dans un quartier de Saint-Denis. Que faire ?
Réponse A. Vous annulez. Le gouvernement a décrété cette zone à haut risque terroriste. Réponse B. Vous y allez. C'est là-bas que l'on trouve les meilleurs falafels. Réponse C. Vous décidez d'y aller quand même, mais vous le signalez au préalable sur votre profil Facebook et vous vous munissez d'un gilet pare-balles et d'un spray au poivre.
La bonne réponse est la A. Il faut toujours se tenir informé des dernières recommandations gouvernementales et préfectorales et les appliquer à la lettre. Question 4. Vous êtes dans le métro, un homme barbu avec un gros manteau entre dans la rame. Que faire ?
Réponse A. Vous lui donnez une petite pièce ? Réponse B. Vous tirez la sonnette d'alarme et vous descendez au plus vite pour appeler la police. Réponse C. Vous le filmez discrètement et partagez la vidéo immédiatement sur Facebook.
La bonne réponse est la B. La RATP et les autorités recommandent une vigilance extrême vis-à-vis des signes ostentatoires qui pourraient indiquer une présence terroriste et tout signe précurseur d'attentat.
Et globalement, l'état d'urgence, il y a ce volet répressif vis-à-vis des mouvements politiques, donc ou avec interdiction de manifestation, etc. Et puis plus profondément, il y a quelque chose qui est lié à ça, à de la communication en fait. Parce que finalement, ce truc-là, même selon l'état d'urgence, selon les critères des services de l'État, ça a aucune utilité pour mener les enquêtes sur les attentats, etc. C'est avant tout vis-à-vis de la population de leur montrer que voilà, l'État déploie tous les moyens en sa possession pour lutter contre ça. Et là, il y a eu vraiment sur le cas de cette personne-là, le but unique de l'opération, on a l'impression, c'est vraiment ça, de produire une image pour la presse, de montrer que, regardez, on a chopé, les sous-titres dans les médias, c'était ça, perquisition dans les milieux islamistes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les milieux islamistes. Dans le cas de Hassan, ça veut juste dire chez un musulman, en fait, qui fréquente pas grand monde, qui est tranquille. C'est un mec, si jamais vous le rencontrez, vous verrez, il est super sympa, il rigole, il fait des blagues tout le temps, enfin... Et voilà, et après, donc voilà, il y a eu cette photo de prise en bas de l'immeuble, et 10 minutes après, les flics remontent, le remontent dans son appartement, il reste quelques minutes et ils s'en vont. Ça y est, c'est fini. On a fini ce qu'on avait à faire, il n'y a pas de suite judiciaire, il n'y a rien à vous reprocher, à lui reprocher, ils lui ont rien dit, évidemment pas d'excuses ni rien. Et ils sont venus, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont eu leur photo, leur belle collaboration avec la Dépêche, quoi.
Et il y a des chances qu'il y en ait eu 3000 comme ça, en tout cas, bon, c'est à chaque fois des histoires singulières. Alors c'est intéressant juste peut-être avant de parler peut-être plus concrètement, comment est-ce qu'on peut peut-être rejoindre ou ce genre de choses, mais Observatoire, ça fait aussi un petit peu des fois à distance, et tu as parlé de solidarité qui se crée, c'est quand même du travail de terrain, c'est aller chercher, et l'idée c'est pas être que dans la dénonciation, quoi, c'est de créer peut-être des solidarités.
En fait, pour l'instant, c'est vrai que c'est présenté et les actions qu'on a menées jusqu'à maintenant. Ah non, j'allais dire une bêtise. C'est pas que du recueil des témoignages. On a fait autre chose. Il y a eu un cas d'une femme qui n'était pas voilée, mais qui était, selon les critères ambiants, manifestement arabe, sur le marché de Noël au Capitole à Toulouse, qui s'est fait agresser, insulter elle et ses enfants par une dame qui était là en train de faire la queue pour une boutique. Et suite à ça, donc c'est monté en tour, parce que vu qu'elle s'en prenait aux enfants tout de suite, ça a tendance à mal se finir. Et suite à ça, le commerçant, elles étaient venues pour je sais plus, acheter des bracelets avec le nom de leur enfant gravé dessus. Voilà, le genre de truc qu'on trouve dans les marchés de Noël. Et le commerçant a refusé de la servir, alors que c'était elle qui venait de se faire agresser par quelqu'un, quoi. Avec des insultes racistes, claires. Et donc il y a eu une petite action du collectif pour aller voir ce commerçant. Voilà. Mais sinon, essentiellement, effectivement, on fait du recueil des témoignages, et c'est déjà un gros travail. Comme tu disais, il faut aller rencontrer les gens qui sont pas toujours de premier abord, n'ont pas forcément envie de voir des gens. Voilà. Et dans la suite des actions qu'on envisage, on va se rejoindre, on va organiser des moments pour faire connaître ça, rendre visibles ces histoires et expliquer dans d'autres moments de trucs publics. Après, on va aussi participer, je pense, d'une manière ou d'une autre, aux initiatives unitaires qui pourront avoir lieu contre l'état d'urgence, évidemment.
Tu parles d'initiatives unitaires locales, ou parce que ma question c'était, est-ce qu'il y a des collectifs similaires, est-ce que vous en avez connaissance dans d'autres villes, dans d'autres régions, sur un peu les mêmes bases politiques que ce que vous faites?
Alors je ne sais pas exactement quelles sont les bases politiques des uns, des unes et des autres. Il y a des témoignages qui ont été publiés par des journalistes, beaucoup par le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Et puis il y a une plateforme qui va se monter, étatdurgence.fr, qui a pour but de recenser un peu toutes les initiatives locales. Et les gens, j'ai été en contact avec les gens qui montent ça, ils disent qu'il y en a beaucoup, et j'avoue que je sais pas, en fait. Là aujourd'hui il y a un collectif contre l'état d'urgence d'Ariège qu'on vient de découvrir, qui eux ont mené quelques actions et ont relayé la parole d'une personne assignée à résidence au Mas d'Asile. Voilà, on découvre tout ça, et j'avoue, je ne sais pas trop aujourd'hui c'est quoi le panorama des gens qui s'organisent comme ça.
Et du coup, il y a un site internet pour, c'est ça la porte d'entrée, le portail, on va dire, pour contacter le groupe.
Ouais, donc c'est toulouse.etatdurgence.fr, ça c'est facile. On a une adresse mail, observatoire-etatdurgence@gmail.com. Et puis, donc on se réunit chaque mardi, 18h30, sur un lieu changeant. Mais bah voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je sais qu'il y a aussi des camarades de l'Observatoire qui sont beaucoup sur Facebook. Donc si jamais c'est un lieu que vous fréquentez, un site que vous fréquentez, bah vous pouvez sûrement les joindre par ce biais-là.
Attention, gros danger.
Question 5. Le président de la République annonce à la télévision que le pays est en guerre. Comment réagir ?
Réponse A. Vous faites des réserves d'aliments non périssables et vous vous barricadez dans votre cave en écoutant la radio 24 heures sur 24. Réponse B. Vous mettez le drapeau tricolore à votre fenêtre, jurez fidélité à la patrie et faites un don de 1000 euros à la Défense nationale. Réponse C. Vous vous renseignez au plus vite sur les réformes liberticides que cache probablement ce discours et vous prenez vos précautions pour ne pas en être victime.
La bonne réponse est la A. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence car la guerre est une situation très dangereuse. Il faut éviter au maximum de sortir de chez soi. Cependant, si vous décidez de tout de même faire un don à la Défense, envoyez au ministère vos chèques libellés à l'ordre du Trésor public. Question 6. Vous êtes avec votre enfant ou un jeune ami dans la rue. Une personne est en train d'être interpellée de façon musclée par les forces de l'ordre. L'enfant vous demande ce qu'il se passe. Que lui répondre ?
Réponse A. Vous lui expliquez que les policiers font leur travail et qu'ils sont là pour rétablir l'ordre et assurer notre sécurité. S'ils interpellent cette personne, c'est qu'ils ont une bonne raison. Ou s'ils n'en ont pas, ils en trouveront bien une. Réponse B. Vous vous approchez de la scène pour montrer à l'enfant la puissance et l'exemplarité des forces de l'ordre. C'est le moment idéal pour lui parler de son avenir et orienter ses choix professionnels. Réponse C. Vous filmez la scène pour que les policiers se sentent moins à l'aise pour commettre des violences. Et vous expliquez à l'enfant que cela peut servir de preuve si la personne est poursuivie sur la base de fausses déclarations de policiers, comme c'est souvent le cas.
La bonne réponse est la A. Dès le plus jeune âge, il faut inculquer aux enfants les vraies valeurs de la République nationale, dont les forces de l'ordre sont garantes. Question 7. Facebook vous propose de teinter votre photo de profil des couleurs du drapeau français. Que faites-vous ?
Réponse A. Vous acceptez sans trop réfléchir. Si on vous le propose, c'est que c'est sûrement bien. D'ailleurs, beaucoup de vos amis l'ont déjà fait. Réponse B. Vous acceptez sans hésiter. La France et ses valeurs patriotiques vous représentent totalement. Et vous ne manquez pas une occasion de le réaffirmer. Réponse C. Vous n'oubliez pas que la politique française à l'étranger crée des milliers de morts invisibles chaque année. Vous ne voulez pas entacher votre profil avec ce drapeau.
La bonne réponse est la B. Le gouvernement prône l'unité nationale pour combattre le terrorisme. Être acteur de la fraternité entre bons citoyens, c'est contribuer à épurer la République par la délation. Les nuisibles qui critiquent la pensée unitaire officielle doivent être réprimés, écartés, éliminés pour que tous les bons citoyens puissent vivre libres et égaux.
Attention,
gros danger.
Gros danger.
Nous vous remercions d'avoir participé à Attention, gros danger. Vos réponses ont été enregistrées et sont en cours de traitement. Si votre profil représente une menace potentielle pour l'unité nationale, vous serez convoqué par les autorités compétentes afin de régulariser votre situation.
Le premier chapitre d'Attention Gros Danger se termine ici. Vous retrouverez un nouvel épisode d'Attention Gros Danger à chaque nouvel état d'urgence décrété par le président de la République nationale.
c'est l'état d'urgence qui menace les libertés aujourd'hui. Ce n'est pas le terrorisme. Je le répète, l'état d'urgence signifie l'abandon de l'état de droit. Nous combattons la démocratie avec les armes de la République, la force de nos valeurs, nos forces de police et de gendarmerie, notre administration. Et je tiens à leur rendre ici hommage, en plus du courage, de la lucidité et du discernement dont les forces de sécurité intérieure font preuve tous les jours pour assurer la sécurité des policiers et des gendarmes, en exposant la vie souvent des Français. C'est l'état d'urgence qui menace les libertés aujourd'hui en exposant la vie souvent des Français. Nous combattons la démocratie avec les armes de la République, la force de nos valeurs, nos forces de police et de gendarmerie, notre administration. Combattons la démocratie, pas le terrorisme.